Voilà, bienvenue à tous, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Et nous sommes dans Sanctuaire de France et nous retrouvons le Père Perret et Véronique qui vont nous parler de Notre-Dame de Fréneau. Bonjour Père Perret et bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler donc de Notre-Dame de Fréneau. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez juste vous présenter brièvement pour commencer ?
Père Raymond Perret, je suis chapelain de Notre-Dame de Fréneau depuis quelques mois simplement.
D'accord.
Je suis Véronique et avec mon mari Régis, nous sommes missionnés par notre évêque pour l'animation spirituelle du sanctuaire Notre-Dame de Fréneau.
Alors justement, alors Notre-Dame de Fréneau, où se situe-t-on exactement ?
Alors d'abord, le mot Fréneau peut faire apparaître un peu énigmatique. C'est probablement, on donne plusieurs origines, mais probablement que ça veut dire sous les frênes. La Vierge Marie a demandé dans un songe à une aveugle, je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure, de construire une chapelle. Alors Fréneau, ça veut dire frêne. C'est une chapelle construite sous les frênes. Ça, le Fréneau se trouve sur la commune de Marsanne, qui est dans ce qu'on appelle chez nous la Drôme provençale, et donc c'est au nord-est de Montélimar, à une quinzaine de kilomètres de Montélimar.
D'accord, donc et on peut dire qu'on est dans la Drôme provençale, hein, c'est ça ? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Père, sur justement l'histoire du lieu ? Comment ça, tout a commencé ?
Alors, il y a une histoire un peu emblématique. Vous savez, c'est assez difficile de savoir vraiment l'origine. On n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord sur la date d'origine, mais il semble bien, d'après la tradition la plus ancienne, que ça remonte à la fin du XIe siècle. On raconte que Adhémar de Montaigne, c'était une grande famille de Montélimar, est venu en pèlerinage à Notre-Dame de Fréneau. C'est une version. Il y en a d'autres qui le mettent un peu plus tard, mais ce n'est plus Adhémar de Montaigne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se serait passé, ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une famille pauvre sur la commune de Marsanne, et cette famille pauvre, il y avait un maçon, et sa femme est décédée à l'accouchement de sa fille. Selon la tradition, c'est une fille unique. Selon une autre tradition, il y avait six autres frères et sœurs. Bon, alors, elle est née aveugle, cette petite fille, et c'est vers l'âge de 16 ans que elle allait attendre son père sous les frênes, pour son père qui revenait du travail, qui était tailleur de pierre et maçon. Et là, dans un songe, elle a vu la Vierge Marie lui dire, et elle a entendu la Vierge Marie lui dire qu'elle voulait qu'on construise une chapelle là, sous les frênes. Et le papa, évidemment, n'était pas riche du tout, et il dit, mais moi je peux pas, c'est pas possible, il faut pas me demander l'impossible. Et puis finalement, la fille a tellement insisté, et elle a tellement parlé autour d'elle, qu'on s'est cotisé, et oui, on lui a donné l'argent nécessaire pour construire un petit oratoire. Voilà. Voilà, ça pourrait être bon. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez emblématique. C'est une famille pauvre. C'est une fille qui est aveugle et qui est orpheline de sa mère. Et donc, nous sommes assez centrés ici sur je ne dirais pas les pauvres, on sent tout le monde, mais dans tous les cas, la famille. Il y a même eu une confrérie ou quelques derniers où on se donnait comme premier objectif la famille. Voilà.
Donc Père, voilà, à peu près, on considère peut-être l'origine à peu près au XIe siècle. Et,
oui.
Et donc
ça peut être d'autres 10 ou 14e siècle.
Oui.
Alors, c'est de toute façon, c'est quelque chose d'assez ancien.
Oui, oui. Et donc, il y a une chapelle qui va être construite.
Un oratoire a été construit. Mais alors, vous savez, je regardais un petit peu ces temps-ci, l'histoire est mouvementée de ce que nous appelons ici le petit sanctuaire, parce qu'il y a aussi un autre sanctuaire qu'on appelle le grand sanctuaire. Le petit sanctuaire, il a été rasé, détruit par les révolutionnaires ou par d'autres, trois fois, au moins trois fois. Ils l'ont chaque fois reconstruit, restauré. Donc c'est un peu l'image de l'Église, vous voyez. Ça, il y a les siècles qui où il y a décadence, et puis il y a les siècles où ça remonte, et les siècles d'assurance. Voilà. C'est une image de l'Église. Des moments où il y a peu de monde. Il y a eu des moments, des périodes de 10 ans, de 15 ans, où il n'y avait aucun culte qui était fait dans le sanctuaire, qui était en ruine, par exemple. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Et puis, c'est même monté une fois à presque 25 ans. Oui. Donc, cette histoire est très variée, très mouvementée.
Et alors, Père, justement, on note qu'il y a eu des pèlerinages donc assez tôt, et puis tout d'un coup, après, effectivement, vous le disiez à l'instant, Père, mais il y a eu un moment où ça a été un peu à l'abandon, oui. Il n'y avait plus beaucoup de pèlerins qui venaient, et c'est reparti, alors je crois que c'est reparti au 19e siècle, hein, c'est ça?
Alors, au 19e siècle, ça fait des heures de gloire, oui, parce que le curé de la paroisse, qui était aussi chapelain, quoi, et un capitaine d'artillerie qui était général, ils ont fait cause commune. Ils se disaient, notre pèlerinage est en baisse, il faut le faire connaître, il n'est pas connu. Et alors, ils en ont parlé avec l'évêque de Valence, qui leur a dit, mais il faudrait être un peu tourné vers le pape. Alors, à l'époque, les troupes françaises étaient à Rome et défendaient le pape. Alors, le pape Pie IX aimait beaucoup les troupes françaises qui le défendaient. Et donc, on a fait porter une lettre par un colonel qui s'occupait à Rome des troupes françaises, en lui demandant si le pape il pouvait bénir la couronne de la Sainte Vierge à Madame de Frénaud, ce qu'il a fait très volontiers. Et il y a eu de grandes fêtes. C'est les fêtes du couronnement. Il y a eu... Vous savez, même dans ce temps-là, on discutait des statistiques, mais disons que le chiffre le plus raisonnable, c'est 20 000 personnes. 20 000 personnes qui ont participé. Il y avait 4 évêques et beaucoup d'autres excusés à cette grande fête. Ça n'a été dépassé que par le 100e anniversaire, donc en 1955. 100e anniversaire, là, on a été jusqu'à 50 000 personnes sur 3 jours. Donc, beau fêter sans Dieu. Donc là, oui, l'affluence, mais c'est pas l'affluence normale. Hein. C'est extraordinaire, quoi. Ça arrive une fois par siècle.
C'était donc la période, ce 19e siècle, où le pèlerinage a été rempli, a été, voilà, c'est le lieu a retrouvé toute sa splendeur.
Hein. Et pour ça, vous avez tout compris, le curé de la paroisse et le futur général de Montluçon se sont dit, mais on ne peut pas rester avec ce petit sanctuaire. On est obligé de toujours faire un plein air, mais parfois il peut y avoir du vent, et puis il y a de la pluie, ou voire de la neige, hein, où il fait pas très chaud. Alors, ils ont pensé à faire un plus grand sanctuaire, sans vouloir faire quelque chose de concurrentiel avec la basilique de Rome, bien sûr. Seulement, ils ont eu tellement de difficultés qu'ils étaient presque découragés d'envisager cette perspective, lorsqu'ils se sont dit, et si on allait consulter le curé d'Ars? Alors, oui, vous savez, le curé d'Ars, c'était à ce moment-là qu'il vivait, il avait un grand rayonnement, on venait l'écouter, ou se confesser à lui, dans un peu tous les coins de France. Alors, le général et le curé sont partis à Ars, et il leur a dit, allez-y, vous avez des difficultés, elles vont disparaître. Et il se fera beaucoup de bien à Frénaud. Alors ils ont été encouragés. De fait, les difficultés sont arrêtées. En 1860, donc 5 ans après le couronnement, on inaugurait le nouveau sanctuaire. Qui n'est pas très très long, hein, mais enfin, il peut contenir 3 fois plus de personnes ou 4 fois plus de personnes que le petit sanctuaire.
Justement, Père, peut-être on peut en venir au pèlerinage aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui.
Je crois que Véronique sera heureuse de vous en dire quelque chose.
Merci.
Alors oui, il se passe de plus en plus de choses au sanctuaire de Notre-Dame de Frénaud. Alors d'abord, nous avons la chance d'avoir un chapelain, donc nous avons le chapelet, la messe et l'adoration tous les jours au sanctuaire. Voilà. Ensuite, nous avons concocté une année riche. Nous avons d'abord les samedis de Fréneau que nous avons mis en place à partir de mai 2017. Donc, il s'agit de 6 samedis où nous pouvons être tenir compagnie à la Vierge Marie. Hein, c'était à la demande de Fatima, de Marie à Fatima. Et donc, de mai à octobre, les premiers samedis du mois, nous aurons ce qu'on appelle les samedis de Fréneau, avec une conférence, la messe, bien sûr, et adoration et vêpres. Alors, le 5 mai, nous aurons les reliques de Sainte Bernadette. 5 mai 2018, hein. Voilà.
Véronique, ça, je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que vous avez aussi enchâssé les reliques, justement, des deux bienheureux petits bergers de Fatima, hein, François et Jacinthe.
Tout à fait. Donc, on a la chance d'avoir des reliques des deux saints canonisés le 13 mai 2017. Voilà, donc on continue, on poursuit. Donc, en 2017, les samedis de Fréneau étaient surtout sur Marie et Fatima, enfin sur Marie, voilà. Et donc là, on poursuivra cette année avec Bernadette. Voilà. Ensuite, nous inaugurons à partir du 17 avril, donc tous les troisièmes mardis du mois, de 18h45 à 19h45, la prière des malades, parce que notre évêque a érigé ce sanctuaire en sanctuaire de la miséricorde pour le diocèse. Donc, nous avons pensé que d'accueillir les malades serait bien, voilà, et de prier avec eux. Voilà. Après, nous avons aussi des dimanches de la création. Alors, leur but, c'est de s'émerveiller, c'est l'émerveillement, et puis le respect du sabbat, enfin du sabbat, du jour du Seigneur. Voilà. Donc ça aussi, il y en aura 5, normalement, de mai à octobre. Voilà. Donc les familles sont invitées, bien sûr, et là, il y aura une marche le matin, accompagnée par des naturalistes, des gens qui s'intéressent à la nature et qui sont compétents pour nous faire découvrir la nature. Et puis un pique-nique, et puis l'après-midi, une conférence ou un atelier avec les enfants. Et puis ça finira par la messe à 16h.
Voilà. Alors, vous êtes, la Véronique, vous êtes dans un très très beau coin. Hein.
Oui.
Pour les amoureux, ceux qui veulent se recueillir mais qui aiment aussi la nature, les deux sont possibles.
Exactement. Exactement. Tout à fait. Le site est dans un petit vallon, mais il est entouré de forêts. Puis on peut monter très vite et voir des belles vues, quoi. Voilà.
Et alors justement, j'allais vous demander quelles sont les personnes qui viennent. Quel type de personnes, de profil un petit peu, en général, hein, vous avez qui viennent à ce sanctuaire?
Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que nous touchons plus particulièrement les seniors, enfin les personnes âgées ou les personnes à la retraite. C'est vrai que c'est les gens qu'on touche le plus. Alors, en dehors des retraites et sessions, parce que là, nous touchons d'autres personnes. Voilà, parce que nous avons chaque année, enfin depuis l'année dernière, organisé des retraites et des sessions. Alors nous avons eu des retraites pour femmes, des retraites pour hommes, des retraites pour couples. Là, nous venons de sortir d'une retraite avec Saint-Hildegarde de Bingen. Voilà.
Vous accueillez, Véronique, donc des personnes pour des retraites. Comment ça marche? Est-ce que vous avez des structures d'accueil?
Alors, le sanctuaire a sur place une hôtellerie, donc une hôtellerie pour accueillir des séminaires, des rencontres, des animations spirituelles, des retraites, en groupe, c'est en groupe. Hein. Et il y a 80 couchages répartis sur 37 chambres. Voilà, et on peut avoir on peut être en pension, demi-pension, voilà. Et il y a des salles aussi.
Et donc vous proposez donc des retraites en groupe. Est-ce qu'il y a, vous dites pas de retraite individuellement, hein, c'est ça?
Enfin, les personnes ne peuvent pas venir tellement individuellement parce qu'en fait légalement, je crois que c'est une autre structure d'accueil. C'est considéré comme de l'hôtellerie. Et
oui,
ce ne sont pas les mêmes registres. Quoi.
Oui, oui, je comprends. Et d'accord. Et alors, vous avez, j'imagine, des fêtes et peut-être du monde, plus particulièrement l'été, non?
Alors oui, à partir de là, ça commence à... Alors d'abord, nous avons quand même une fonte et une source. Et cette source attire énormément de gens. qui viennent boire à la source, qui viennent prendre l'eau. Un, parce qu'elle est bonne, deux, parce qu'elle est gratuite. Et qui trouvent l'eau vraiment excellente. Il y en a même qui font des sirops avec, des sirops bio, voilà. Et du coup, ces gens, ils passent. Donc, soit ils s'arrêtent à la chapelle, ils mettent une petite bougie, ils prient, soit ils passent pas du tout, ils s'arrêtent que à la fontaine. Et puis là, c'est la période, l'hiver est en train de finir, hein, on a un très beau soleil, et les gens reviennent en masse se promener. Il y a beaucoup de promeneurs. Et donc, on essaye de parler avec eux, quoi. Voilà.
Parce que, et alors, s'agit-il de la source, justement, de l'origine dont parlait le Père Perret tout à l'heure, hein, de la source qui guérit la jeune adolescente ?
Voilà, on peut le penser que c'est cette source qui a guéri.
Et alors, vous êtes, je crois que vous êtes pas loin de Marsanne, c'est ça ?
Ah ben, nous sommes dans Marsanne.
Vous êtes dans Marsanne même.
Enfin, on est juste à l'extérieur, si vous voulez, c'est la suite du village, quoi.
800 mètres.
Ah oui, effectivement, oui, oui. Et voilà, parce que on avait situé un peu géographiquement, mais vous êtes aussi donc pas très très loin non plus de Montélimar. Hein.
C'est ça.
C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous avez donc justement, on en a parlé un petit peu, mais peut-être des temps particuliers, des temps forts dans l'année.
Oui. Oui, nous avons des pèlerinages. Alors d'abord, en septembre principalement, on a deux pèlerinages. Il y a le pèlerinage diocésain avec l'hospitalité de Lourdes, donc qui est le premier dimanche de septembre. Et puis, on suit en général la fête de la Nativité de la Vierge le 8 septembre. Donc nous avons aussi un pèlerinage là. Nous avons le 15 août, où nous commençons à aussi faire un pèlerinage de plus en plus. Et le sanctuaire étant dédié à la miséricorde, le premier dimanche après Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde, se passe à Fresneau, Notre-Dame de Fresneau, et donc là aussi nous aurons une grande journée.
Présidée par l'évêque. Mais déjà samedi prochain, parce que ça a commencé, déjà samedi prochain, nous avons une cinquantaine de personnes qui viennent du Vercors, conduites par leur curé.
D'accord, oui, oui, effectivement. Et donc on peut. Alors est-ce que vous avez un site justement où on peut aller chercher des informations pour nos auditeurs auditrices qui seraient intéressés, qui passeraient dans la région, venir chez vous?
Alors il faut aller sur le site du diocèse de Valence. Et là pour l'instant, alors ce site est en réflexion et voilà, nous allons avoir notre propre sur ce site même. Nous aurons, il faudra taper NDF. ndfreno.catholique.fr et vous aurez tout ce qui se passe sur le site. Et nous éditons également une newsletter. Donc, et là, c'est au cours des retraites ou de tout ce qui se passe, on met une feuille, les gens mettent leur mail et du coup, on leur envoie systématiquement la lettre quand ils le demandent, hein, et on leur envoie la lettre de la newsletter. Et ils sont au courant du code qui apparaît tous les mois à peu près, tous les mois et demi, et qui leur donne les dernières informations.
Alors justement, j'ai oublié de vous demander, Véronique, ces retraites, alors est-ce que vous avez des temps, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé en termes de, par exemple, de temps d'enseignement, de prière, il y a un programme particulier ?
Alors oui, tout à fait. Si je prends la retraite qu'on vient de vivre avec Saint-Hildegarde, donc nous avions des enseignements sur Saint-Hildegarde et nous avions des temps de prière, le chapelet, nous avions des temps d'adoration, la messe, des marches. Enfin, je veux dire, les gens pouvaient des temps libres où les gens pouvaient découvrir le coin. Et voilà, c'est grosso modo des temps de louange et d'éveillés, dont des veillées de miséricorde.
D'accord. Et là, vous avez peut-être des paroissiens aussi qui viennent, qui ne sont pas forcément là en retraite, mais qui viennent participer à ces assemblées.
Oui, bien sûr. En fait, je pense à la retraite homme et la retraite femme que nous avons eue, la retraite couple. Les gens venaient même de loin. Hein. J'ai eu des gens de Marseille, de Paris, pour Île-de-Garde. J'avais une Parisienne qui est venue. Donc, ça commence à être connu, quoi, en fait. Hein. Et les gens viennent de loin.
Alors justement,
la majorité, hein. Et... il y a aussi beaucoup de gens qui viennent de nos paroisses aux alentours, Montélimar et puis Sainte-Anne-de-Bonlieu.
Non, justement, puisque on peut parler d'une forme de belle renaissance du lieu. Qu'est-ce qui, si vous interrogez un peu les gens qui viennent, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce lieu qui leur donne envie de revenir ou d'en parler autour d'eux?
La beauté, la paix. Je crois que c'est un lieu vraiment où on fait l'expérience de la sérénité, de la paix. La paix profonde. J'ai des témoignages là de gens qui ont quitté la session de Saint-Hildegarde et qui m'ont dit, mais c'était vraiment la paix qui était là.
D'accord. Eh bien voilà, donc on ne peut qu'encourager nos auditeurs, auditrices qui seraient intéressés, qui passeraient dans le coin, de venir voilà, se recueillir chez vous.
Ah, bien sûr.
Et ils seront bien accueillis.
Avec plaisir. Et alors, effectivement, il y a des groupes hein, qui viennent, mais alors il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. C'est-à-dire qu'on a des groupes de catéchèses, des groupes de confirmants, des groupes de diacres, etc., qui viennent passer un week-end ici, quoi.
D'accord, oui.
Voilà. Mais il faut s'inscrire à la maison Saint-Joseph, à l'accueil Saint-Joseph, parce que c'est pas mal rempli déjà.
Oui, on peut s'inscrire, on peut aussi s'inscrire en téléphonant, hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je suis désolée, j'ai pas le numéro à vous donner pour la maison Saint-Joseph. Mais il y a un site,
voilà.
Où vous faites accueil Saint-Joseph, où vous tapez maison Saint-Joseph et
oui.
Vous aurez toutes les coordonnées.
Où en allant...
Un téléphone, c'est 04 75 90 32 50. 04 75 90 32 50.
Alors ça, c'est ce qui concerne toutes les inscriptions pour des groupes constitués. Et après, pour tout ce qui concerne les retraites ou les pèlerinages, c'est mon numéro, donc c'est au Véronique Brace, au 06 30 92 64 87.
Bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux, merci Père Perret, merci Véronique de nous avoir voilà, illustré ce lieu magnifique.
C'est nous qui vous remercions.
Oui, voilà. Eh bien, merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.